Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 février, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une petite ville d'Allemagne, théâtre hier soir de deux fusillades devant des bars à chicha, bilan au moins 8 morts et 5 blessés, le tireur a été retrouvé mort quelques heures plus tard, on ignore encore les raisons de ces attaques meurtrières, nous serons en Allemagne dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Édouard Philippe et une partie du gouvernement dans les Vosges aujourd'hui pour parler rural. Une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et débat à l'Assemblée qui patine. La jeunesse iranienne désabusée pourrait bien bouder les législatives demain. Reportage de notre envoyé spécial à Téhéran. Et puis adultère et trahison au théâtre avec une nouvelle adaptation d'une pièce d'Harold Pinter.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Alexandra.
C'est la présidente du premier syndicat agricole, la FNSEA, Christiane Lambert, J-2 avant l'ouverture du salon de l'agriculture.
Et à 8h20, Alexandra. Le grand entretien de la matinale sur la recherche en France. Nous aurons deux invités, Isabelle Tisse-Saint-Jean qui est professeure à l'université Sorbonne Paris Nord et secrétaire nationale du PS en charge des études. Avec nous également Raphaël Rodriguez, lui est directeur de recherche au CNRS et chef d'équipe à l'Institut Curie. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter. La traque a duré toute la nuit dans les rues d'Hanau près de Francfort pour retrouver l'auteur des deux attaques qui se sont déroulées au cœur de cette ville de 90 000 habitants. Un véritable scénario d'horreur selon une responsable politique locale. Le bilan est très lourd, au moins 8 morts dont une femme et 5 blessés. Selon le journal Bild, les victimes sont d'origine kurde. Ludovic Piétenu, vous êtes le correspondant permanent de France Inter en Allemagne. Bonjour.
Bonjour Agnès.
La police allemande a donné l'assaut il y a 2 heures tout juste au domicile d'un suspect qui a été retrouvé mort.
Il s'agit bien du corps de l'auteur de cette double fusillade. La police est formelle et il n'y a qu'un seul auteur. Retrouvé sans vie à son domicile, il y avait à ses côtés un autre corps encore non identifié. Il était 22h hier soir dans le centre-ville d'Hanau. Des témoins ont entendu 8 ou 9 tirs devant le Midnight, un bar à chicha. La police comptabilise ici au moins 3 morts. Très peu de temps après, 2,5 km plus loin, de nouveaux tirs résonnent dans la nuit dans le quartier, cette fois de Kesselstadt, devant un autre bar, l'Arena, situé au pied de tours d'habitation. Ici, au moins 5 morts. D'importants moyens de police sont déployés pour retrouver une voiture de couleur sombre, selon les témoins. Un hélicoptère décolle de Francfort, la capitale financière de l'Allemagne, située à seulement 25 km à l'ouest. Des renforts arrivent même de la région voisine de Bavière. Cela va durer toute la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, épilogue de cette fusillade, avec la découverte du corps du suspect, dont on ignore les motivations. La police a sujet reste très prudente, ce peut être un règlement de compte local ou bien la thèse d'un crime raciste visant deux bars à chicha dans un pays qui fait face depuis plusieurs mois déjà à une recrudescence de ce que les médias allemands appellent la terreur d'extrême droite.
Merci Ludovic Piétenu à Berlin ce matin pour France Inter et nous y reviendrons bien évidemment tout au long de la matinée.
Il est 7h03, Agnès, commerce, transport, services publics, déserts médicaux, zone blanche, c'est l'agenda rural du gouvernement.
Avec un Premier ministre en campagne à un mois, moins d'un mois des élections municipales. Édouard Philippe et 6 membres du gouvernement vont passer donc la journée dans les Vosges pour mesurer les premiers effets des mesures prises pour redonner vie aux petites communes rurales via notamment ces créations de maisons France Service. Le Premier ministre se rendra également à Girancourt pour assister à la reprise d'un café-restaurant qui ne trouvait pas de repreneur depuis 3 ans. Alors ces reprises boostées par les pouvoirs publics sont-elles couronnées de succès? Reportage au bar-épicerie Le Rural de Lenoncourt, un village de 600 habitants où s'est rendu Simon Soubieux.
Ici, Corinne, la gérante, fait café, restaurant, bar, épicerie, un commerce multifonction qu'elle a ouvert il y a 3 ans.
L'idée, c'était de redynamiser le village, parce qu'on avait perdu notre commerce. Ça faisait presque 2 ans qu'il était fermé, il me semble. On a recréé ce lieu de vie.
Une ouverture de commerce de proximité importante pour les habitants de la commune.
Pendant un certain temps, il n'y avait plus rien et c'est vrai que ça manque. C'est toujours sympa de discuter un petit peu.
Un commerce ouvert avec le soutien financier de la municipalité, par exemple. Le loyer est abaissé pour Corinne, mais même avec ce soutien, c'est difficile. difficile.
Non, financièrement, faut vraiment pas compter ses heures. Autrement, à la fin du mois, vous pleurez, hein, forcément. Il y a pas assez de monde. J'ai la chance d'avoir mon mari qui travaille à côté. Autrement, à deux, on pourrait pas.
Corinne commence ses journées à 6h du matin. Elle termine souvent après 20h le soir. Certains clients ont peur qu'elle finisse par craquer.
Elle ne compte pas ses heures. Elle n'a pas de grosses exigences salariales, à mon avis. Elle a des horaires à la con et elle peut embaucher personne. J'espère que Corinne arrive à en vivre et j'en suis pas sûr.
Corinne se veut rassurante. Elle dit qu'elle va tout faire pour ne pas mettre la clé sous la porte.
Il faut que ça dure. Il faut se forcer à venir même. Il faut que ça tienne le coup. C'est pas quand c'est fermé qu'il faut pleurer.
Le Premier ministre Édouard Philippe évoquera donc les difficultés de ces commerces de proximité à Girancourt dans les Vosges.
Simon Soubieux de France Bleu, Sud-Lorraine. Et pendant ce temps à Paris, dans plusieurs grandes villes, ce jeudi est une nouvelle, la 10e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. À Paris, le cortège partira à la mi-journée de Montparnasse, direction Porte d'Italie. Peu de perturbations prévues dans les transports. Et à l'Assemblée, le débat sur le texte se poursuit péniblement. D'amendements en suspension de séance, de questions de procédure en rappel au règlement. À l'image de cet échange entre Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand.
Merci, monsieur le président. Je ne vais pas répéter les arguments.
Sur
du
quel
président.
Fondement vous.
Le bon, monsieur le président.
Oui, ben vous allez le démontrer avant de l'évoquer.
Non, je ferai bien comme je l'entends.
Ben non, parce que quand on fait rappel au règlement, le fond d'endroit.
Monsieur le président.
Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée nationale.
Je vais mise en cause personnelle, article 100. Président, je
non,
vous invite
ce n'est pas,
à une
ce n'est
certaine
pas le bon
retenue.
Fondement. Mais écoutez, monsieur le président Mélenchon.
Ça me paraît un peu exagéré. Vous devriez vous calmer.
Oh, vous inquiétez pas, je suis très calme.
Oui, ben c'est pas l'impression que tu donnes.
Des députés qui, face à l'ampleur de la tâche, siégeront ce week-end et au moins jusqu'au 6 mars.
Il est 7h06, un permis de conduire moins cher dès le 1er juin.
C'est la promesse du ministre de l'économie qui a signé hier un décret instaurant un contrat type pour toutes les auto-écoles avec des tableaux précis détaillant leur prix comme un devis. Un comparateur sera également mis en ligne dès le mois prochain. Le gouvernement aspire ainsi faire baisser les prix, actuellement entre 1600 et 1800 euros, faire baisser les prix de 30%. Raphaël Bartholmé, responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir, salue une bonne nouvelle.
L'annonce faite est de 30%. Je pense que ça ira étape par étape parce que ça va imposer aux auto-écoles de remettre à plat aussi la façon dont elles vendent des heures, la façon dont elles vendent des forfaits, parce que la concurrence sera plus simple, parce que la comparaison sera vraiment effective. Le site évoqué par le ministre, le site du ministère de l'Intérieur, qui va permettre d'obtenir le taux de réussite et qui va permettre aussi aux auto-écoles de mettre en avant les informations. Oui, c'est une comparaison, une transparence. Et la transparence, on a pu se rendre compte, a pour effet de baisser les prix.
Plus méfiant, Philippe Colombani, il est le président du syndicat représentatif des écoles de conduite.
Je ne peux que bondir puisqu'on a 10% de marge sur nos tarifs, donc je ne vois pas où on trouve les 20 autres %. Il faut comprendre que sur le prix d'un permis, il y a à peu près 60% de charge. TVA, impôts, j'en passe, c'est 60% de charge. Donc il reste 40% pour l'entreprise. Elle doit payer ses salariés, les voitures, l'essence qui baisse pas, hein, on le sait. Vous savez, le problème de tous ces systèmes de casse de prix, de baisse de prix, c'est souvent de l'ubérisation. Et qui c'est qui paye et qui c'est qui trinque, c'est le salarié. Regardez Uber Eats. Uber Eats, c'est des mecs qui pédalent. Hein. Ils s'achètent leur vélo et tout et ils pédalent. Mais c'est des esclaves modernes. Moi, je veux pas de ça pour ma profession. Donc je veux bien qu'on baisse le prix, mais s'il y a des aides pour les jeunes, sans que l'auto-école, elle, ne casse les prix.
Dossier permis de conduire signé Maxime Debs. L'épidémie de coronavirus avec un nouveau rapatriement de ressortissants français en provenance de Wuhan. L'avion doit décoller ce soir de Chine pour atterrir demain dans l'Hexagone. Les rapatriés qui ne présentent pas pour l'instant de symptômes de la maladie seront placés en quarantaine durant 14 jours dans un village de vacances du Calvados à Branville, près de la plage de Villers-sur-Mer. Par ailleurs, on a appris ce matin la mort de deux malades contaminés par le coronavirus à bord du paquebot Princess Diamond au Japon. Première victime parmi mais il y a 600 passagers infectés. En Iran, à la veille des élections législatives, la question de la participation au scrutin est au cœur des débats. Le camp conservateur est donné favori dans un contexte de crise économique exacerbée après le rétablissement des sanctions américaines. Alors les jeunes qui, en 2017, avaient massivement voté pour l'actuel président modéré, vont-ils se mobiliser ? Reportage de l'envoyé spécial de France Inter à Téhéran, Valérie Crova.
Devant la maison des artistes iraniens, un groupe de jeunes femmes discute avant d'aller voir le dernier film du réalisateur Mohamed Hossein Madavian. Toutes sont étudiantes en économie à l'université Rarasmi. Aucune ne compte se rendre aux urnes demain.
Ils se fichent de ce qu'on veut. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se fichent de nous, les jeunes. Ils ne font que ce qu'ils doivent faire pour rester au pouvoir.
À l'écart du groupe, Ali, étudiant en architecture, a lui aussi fait son choix. Il n'ira pas voter.
Non, parce que je pense que la situation n'est pas bonne en Iran actuellement. Des choses terribles se sont déroulées il y a 3 mois. Et puis il y a eu cet avion abattu. Le gouvernement a menti à ce propos. Et ce n'est pas bien non plus.
La gestion de la catastrophe du Boeing d'Ukraine Airlines a provoqué une vague d'indignation et des manifestations. Mais comme en novembre dernier, quand le gouvernement a annoncé une hausse du prix de l'essence, Ali n'est pas descendu dans la rue.
Non, parce que j'avais peur, car on peut vous mettre en prison. Donc, par crainte pour ma vie, je n'y suis pas allé.
70% des Iraniens ont moins de 35 ans, une jeunesse désabusé, qui ne croit plus en sa classe dirigeante et qui ose le dire ouvertement. Téhéran, Laurent Macchietti, Valérie Crova, France Inter.
Reportage à retrouver sur franceinter.fr. Ils n'ont plus besoin de se cacher pour donner des conseils à leurs joueuses. Le tournoi de tennis féminin de Dubaï autorise en ce moment le coaching depuis les tribunes, ce qui était jusqu'ici formellement interdit. Une expérimentation qui pourrait être généralisée, Fabrice Abgral.
Tous les entraîneurs placés au bord du court peuvent désormais, durant tout le match, communiquer verbalement ou par geste, et ceci sans que l'arbitre ne les sanctionne. Pour Thomas Drouet, l'entraîneur de la chinoise Qiang Wang, c'est la fin d'une hypocrisie.
On est beaucoup plus libérés, on n'est plus hors la loi, ni on joue plus à cache-cache avec l'arbitre. Je trouve ça vraiment plus sain. Tous les sports ont leur coach. Je suis en train de regarder un match de foot, là, le coach il est en train de parler alors que les joueurs sont en train de courir après le ballon. Le cyclisme, ils ont les oreillettes, c'est exactement le même principe.
Alors évidemment, il y a des pour, comme Thomas Drouet, et des contre, comme Bertrand Perret, l'entraîneur français de la taïwanaise Su Weixie.
J'aime pas que les joueuses soient considérées un peu comme un robot, donc on leur dit voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Je pense qu'il faut laisser un petit peu la joueuse s'exprimer, et bon, c'est ce qui fait un peu le caractère d'une championne, c'est de prendre la bonne décision au bon moment.
Les joueuses, elles, sont partagées. Pauline Parmentier y est plutôt favorable, mais sous certaines conditions.
J'espère que les entraîneurs vont quand même rester à leur place et que ça va pas déborder. Il faut que ça reste cadré, quoi. Faut pas que les coachs commencent à se lever, parler trop fort, etc. C'est le seul truc, moi, qui me fait un peu peur sur ce nouveau truc de coaching.
Le coaching depuis les tribunes sera encore expérimenté sur différents tournois avant que la WTA ne prenne en fin d'année la décision de le supprimer ou l'autoriser définitivement.
Enfin, Trahison, l'une des pièces les plus célèbres d'Harold Pinter, est adaptée au Théâtre de la Madeleine à Paris par Michel Faux. Trahison décortique les relations amoureuses à travers une histoire d'adultère. Stéphane Capron.
Trahison est un polar amoureux croustillant dont on reconstitue le puzzle tout au long des 9 scènes. Pinter commence par la fin et remonte le fil. On connaît tout de cette histoire d'adultère dès le début de la pièce. Pendant 10 ans, Emma entretient une liaison avec Jerry, un ami de son mari qui est dans la confidence. Ce monde de Pinter colle parfaitement à celui du metteur en scène, Michel Faux.
Il y a un avant et un après Pinter. Et puis ce qui me plaît, c'est qu'il fait avec les codes du théâtre, mais il les démonte, quoi. Et il fait avec les codes de la société, mais il s'en moque et il les met en abîme, quoi. Puis c'est un théâtre élégant, très pervers, très psychotique, je dirais. Puis il règle des comptes avec le monde de l'édition, le monde de la mondanité intellectuelle londonienne. Il nous mène en bateau, en fait. On ne sait pas trop où on va. Et il nous emmène dans des différentes pistes, en fait.
Michel Faux y ajoute sa touche personnelle, un côté farcesque qui agit dans les moindres gestes des personnages, mais aussi dans les regards qui révèlent leur perversité. Il marque aussi les nombreux silences qui installent le doute dans la dramaturgie. Pour incarner le rôle de son épouse, Michel Faux a choisi une grande comédienne, Claude Perron, démoniaque à souhait. Roche disait, mais lui un peu plus en retrait face à ces deux monstres de théâtre.
Trahison à Paris au Théâtre de la Madeleine en ce moment.
Merci Agnès Soubiran.